19h sur Campus, vous avez bien raison de nous écouter. Tout de suite, c'est l'heure du sous-marin.
Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Mais y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous, vous êtes bien à bord du sous-marin et nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour balayer l'actu et surtout décrypter le dernier Angers Mag spécial premier plan. Pour ça, Sébastien Rochard, journaliste en Angers Mag, est avec nous. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Au programme également de cette émission, Alexis, habituel chroniqueur et réalisateur de l'émission Ta gueule Coubertin, nous parlera de sport. Et évidemment, de ce qui excite toute la presse en ce moment, la nomination de Zizou à la tête du Real. Mais tout de suite, this is Thibaut's time.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Alors, my dear, hier tu nous parlais de Foulque Nera, personnage angevin haut en couleur. Aujourd'hui, tu sors de la ville pour t'éloigner vers des contrées lointaines.
Eh oui, Pierre-Louis, je poursuis sur ma lancée de portraits historiques un peu excentriques et aujourd'hui, on va s'attarder sur Louis de Buade, comte de Frontenac et de Paluau, qu'on appellera Frontenac pour faire simple. Un peu de musique d'ambiance. Merci beaucoup. Alors, petite remise dans le contexte, nous sommes au XVIIe siècle et si Louis XIV règne d'une main de maître sur la France métropolitaine, la situation est plus complexe en Nouvelle-France. Et c'est là que tu me relances.
Et c'est là que je te relance. Et alors, la Nouvelle-France, tu parles de quoi ?
Eh oui, Pierre-Louis, merci de me poser la question. La Nouvelle-France, c'est cette colonie française en Amérique du Nord d'environ 8 millions de kilomètres carrés, parce que si le sujet est peu abordé dans les programmes de l'enseignement secondaire, il y a bien une raison pour qu'une partie du Canada soit francophone aujourd'hui. Alors pour résumer grossièrement, l'Amérique du Sud, c'était un peu mort de s'y installer. Espagnols et portugais y étaient déjà, et les rares tentatives comme l'implantation de Français en Floride au XVIe siècle s'étaient soldées par le massacre en règle des colons par les troupes de Mendeles de Aviles. Mais bon, le Nord, c'est plus chill, moins de ressources, des conditions d'installation beaucoup plus rudes, c'est un peu comme le Nord de chez nous en fait, personne n'a vraiment envie d'y mettre les pieds. Les premières tentatives ont quand même eu lieu dès le XVIe siècle, et après quelques ratés, type grand froid, scorbut, la ville de Québec est fondée en 1608 par Samuel de Champlain. Là, ça va un peu mieux, Louis XIII délègue la colonisation à une compagnie privée, la compagnie des sans-associés, on envoie quelques centaines de colons, mais niveau gestion, les mecs, c'est pas des flèches, et quand Louis XIV prend le pouvoir en France, il récupère le contrôle de la colonie qu'il va gérer avec Colbert, propulsé ministre de la Marine, pour l'occasion. Il fondera un conseil souverain composé d'un intendant, d'un gouverneur et d'un évêque, chacun ayant des zones de compétences bien spécifiques.
Bon, et ce Frontenac dans tout ça ?
Ah, et bien ce Frontenac, c'est lui qui sera un des premiers gouverneurs de la colonie. Alors Frontenac, c'est un mec issu d'une vieille famille de noblesse d'épée, le genre qui crache sur cette nouvelle noblesse composée de hauts fonctionnaires. Bien éduqué, il va combattre lors de la guerre de 30 ans, il va se faire blesser au bras, il va beaucoup chouiner, donc il va gagner un titre avec ça. A priori, la blessure n'était pas si grave. Et le reste de son temps, il le passe à la cour du roi, et la cour, ça coûte cher. Donc Frontenac, comme beaucoup de nobles de l'époque, est criblé de dettes. Ce qui fait que devant ses créanciers qui commencent à s'énerver du manque de remboursement, il va s'engager comme mercenaire dans les troupes de Venise. Et ça se passe pas très bien, parce que son orgueil fait qu'il se met à dos la moitié des officiers vénitiens et se fait virer. Donc, en 1972, toujours fauché, toujours poursuivi par les créanciers, Frontenac se dit que mettre l'Atlantique entre lui et eux pourrait être une bonne solution et accepte la charge de gouverneur de Québec. Là-bas aussi, Frontenac va tenter de s'imposer, va déborder de ses prérogatives et se fait rapidement détester à la fois par les autres membres du conseil, mais aussi par le gouverneur de Montréal et la plupart des familles de colons. Et le problème majeur à l'époque, c'est le business de la fourrure de castor. Alors je sais, ça sonne ridicule aujourd'hui, mais à l'époque, c'est la plus grande mode dans les capitales européennes, on s'arrache la fourrure, et le roi a bien du mal à contrer les coureurs des bois, ces braconniers qui dealaient illégalement avec les autochtones. Frontenac était chargé d'endiguer ce phénomène, sauf que dans les faits, il l'a un peu fait Walter White avant l'heure et a tout fait pour dominer le game de la fourrure. On peut citer la construction forcée par les colons des villes alentours d'un fort qui faisait office de comptoir de commerce tout à fait illégal, qu'il a appelé Fort Frontenac. Il fait arrêter le gouverneur de Montréal quand ce dernier s'oppose à lui, il fait arrêter un abbé quand il s'oppose à lui. Les lettres de Colbert et de Louis XIV pour le rappeler à l'ordre restent lettres mortes. Il tente de restreindre son influence à l'aide d'un nouvel intendant, Frontenac continue à mettre au trou tous ceux qui s'opposent à lui, il se prend la tête avec les tribus indiennes locales allant jusqu'à déclencher une nouvelle guerre ouverte. Il va être appelé en France en 1682 parce qu'on a de plus en plus de courriers qui arrivent en France qui l'informent le roi et son ministre des écarts de conduite de ce brave homme. Mais après quelques années, mise à l'écart, la guerre s'est déclenchée entre Anglais et Français pour le contrôle de Québec et des colonies en Amérique du Nord. Frontenac est rappelé à son poste en 1689 où il doit vite s'atteler à la protection de la ville face à un siège anglais. Un messager lui demandera une réponse à l'ultimatum du chef anglais. Frontenac répondra « Quant à votre général, qu'il sache que je n'ai point de réponse à lui faire que par la bouche de mes canons. » Il va réussir à débouter les Anglais, il va réussir à faire la paix avec les tribus indiennes, contribuera à une énorme expansion des territoires français à l'ouest ou au sud, et à l'automne 1698, mourant, il finira par appeler l'ensemble de ses anciens ennemis sur son lit de mort, s'excusera et mourra peu après. C'était donc une version non exhaustive de l'histoire de Louis de Frontenac, le dealer de fourrure.
Merci beaucoup Thibaut. Sébastien Rochard, vous connaissiez cette histoire de dealer de fourrure de castor?
Je connaissais le nom de Frontenac, mais alors l'histoire en particulier, non. J'avais peur que vous me posiez une question piège d'ailleurs, savoir si j'avais bien écouté. Mais...
Ça va. Non, la question c'était juste de savoir si Thibaut avait bien fait son travail en vous apportant
formidable.
Sur un plateau une page de l'histoire. Le sous-marin va faire une pause tout en musique, on revient dans 4 minutes 39 pour être précis.
Thank you.
Mind Enterprise avec le titre Loverboy dans le sous-marin sur Campus. Nous sommes toujours en compagnie de Sébastien Rochard pour décrypter le dernier Angémag spécial. Premier plan, on commence peut-être par la rencontre avec Arnaud Desplechin, le président du jury de cette année. Entretien réalisé par Tristan Louise, c'est compliqué d'avoir une interview avec un réalisateur comme lui.
C'est toujours un petit peu compliqué de toute façon d'avoir des interviews, des intervenants cinéma. Enfin, du point de vue culturel, c'est toujours un petit peu compliqué, chanteurs, cinéma, tout ça, parce qu'ils ont des agendas super pris, parce qu'il faut franchir plusieurs barrières souvent, qui sont celles des agents. Alors ils font leur travail, hein, y a pas de souci. Mais là, ça c'était un peu facilité puisqu'il y a un lien très fort avec le délégué général du festival, qui est Claude-Éric Poirou, le créateur du festival, fondateur du festival, depuis la naissance quasiment de premier plan. Donc non, ça n'a pas été si compliqué que ça pour Arnaud Desplechin. Ça avait été plus compliqué l'année dernière, on avait fait Bertrand Blier. Ça avait été un petit peu plus compliqué, mais on y arrive toujours, il faut insister.
Ouais, là c'est aussi avec la relation particulière qu'a Arnaud Desplechin avec Premier Plan, c'est quand même là qu'il a été révélé, etc.
Ouais, c'est ça, il a eu ses premiers prix en 91, je crois, me semble-t-il, à Premier Plan. Alors pour deux de ses films, La Sentinelle et puis La Vie des Morts, La Vie des Morts d'abord et puis après La Sentinelle, qui ont été largement accompagnés et relayés par le festival Premier Plan, avec différents prix, je sais plus lesquels exactement, mais il y avait un prix du scénario, je crois, notamment. Donc voilà, ça a tissé des liens dès le début de sa carrière à lui, et puis bah, c'est bien les gens qui ont de la mémoire et il s'en souvient aujourd'hui. Et il est enfin président du festival.
Thibaut,
comment on fait quand on aborde ce type de rencontre avec tout ce qui a déjà pu être écrit? Vous lisez ce qui se fait à côté en essayant de ne pas être redondant, ou au contraire vous faites abstraction et vous y allez comme ça?
Alors il faudrait poser la question à Tristan qui a réalisé l'interview. D'une manière générale, effectivement on se renseigne quoi. On regarde ce qui a déjà été fait, on s'appuie évidemment sur l'actualité du réalisateur. C'est des interviews, on a le temps, les rencontres là, elles doivent faire 4 pages, donc on peut s'étendre un petit peu sur l'histoire commune avec le festival, puisqu'elle est quand même très forte. Tristan, je crois, est revenu aussi sur l'actualité du moment, pas uniquement cinématographique, mais l'actualité des attentats, celle de Calais, tout ça, puisque c'est plutôt un... Alors, c'est pas un cinéaste engagé, il le dit lui-même, c'est plutôt un citoyen engagé, donc on a parlé de tout ça. Non, c'est des interviews où on prend le temps de discuter avec le réalisateur, et puis le bonhomme aussi, celui qui est derrière le réalisateur, finalement. Voilà, et puis après, on se laisse porter par l'entretien aussi, on interagit avec ce qu'il nous dit, quoi. Et ça s'est plutôt bien passé avec Arnaud Desplechin, il était très disponible.
Justement, l'angle, vous l'aviez fixé à l'avance, ou ça s'est passé vraiment une rencontre presque informelle entre Tristan Louise et Arnaud Desplechin?
Non, c'est pas une rencontre informelle, c'est une rencontre téléphone, pour tout vous dire déjà, ce qui est en général le cas, puisque ils sont soit parisiens, soit en tournage, soit ailleurs. Nous, on n'a pas des moyens non plus démesurés pour les envoyer à droite, à gauche. Donc ça s'est passé par téléphone, c'est des rendez-vous qui étaient pris. Tristan a bossé sur la bio et sur l'histoire d'Arnaud Desplechin, et puis la discussion, elle s'est installée assez naturellement. Vous savez, une fois qu'on a passé la barrière de... alors éventuellement, s'il y en a des agents ou de la prise de contact, ça reste une discussion de bonhomme à bonhomme, quoi, ou de bonhomme à bonne femme, donc c'est le plus naturel possible.
Thibaut ?
Je me perds dans mes petites fiches. Quand on a un type de personnage comme ça qu'on interview, est-ce qu'on se dit qu'on aurait pu aller plus loin et creuser un peu plus, comme on a pu le voir dans l'article qu'avait fait Society en mai dernier et que Tristan Louise a cité? On n'a pas des regrets un peu de devoir se cantonner au format?
Oui, mais alors ça, c'est finalement le regret qu'on a pour n'importe quel papier. Enfin, quand il y a des personnages qui nous intéressent, des histoires qui nous intéressent d'une manière générale à raconter, on est toujours frustré de ne pas pouvoir en dire plus. Après, on a un format donné, voilà, on ne peut pas le dépasser non plus ou l'exploser non plus. Évidemment que je suis pas sûr qu'il ait mis tout ce qu'il a échangé avec Arnaud Desplechin, mais ça peut resservir plus tard, ça pourra pourquoi pas resservir pendant la durée du festival. Je dirais que la frustration elle est quasiment inhérente au métier et aux formats qui se sont imposés, qui sont déjà des formats longs pour celui de l'interview.
Justement, forcément il y a de la frustration. Vous êtes quand même satisfait de cet article, de cette rencontre?
Oui, alors encore une fois, il faudrait poser la question à Tristan, mais je crois que ça s'est extrêmement bien passé. Je pense qu'elle est intéressante. Il dit des choses dans cette interview. À partir du moment où on apprend des choses et où le réalisateur ou la personne qu'on interviewe se livre, oui, on est plutôt satisfait. Effectivement, on aurait pu sans doute aller plus loin, mais non, moi je trouve qu'il y a déjà plein de choses dans cette interview, quoi. Enfin, je pense que les, les cinéphiles angevins et ceux qui liront ça apprendront des choses sur Arnaud Desplechin, donc c'est l'essentiel.
Ouais, c'est une des questions qu'on s'est posée. Pourquoi ne pas avoir essayé de creuser un peu plus cet aspect, on en parlait tout à l'heure, de citoyen engagé, réalisateur qui ne se considère pas comme réalisateur engagé. C'est assez particulier comme démarche, en tout cas comme présentation de lui-même.
Ah, je sais pas, non. Enfin, quand on regarde sa filmographie, c'est effectivement pas une filmographie de cinéaste engagé. Il signe Ken Loach, par exemple. Ça n'a rien à voir avec le cinéma de Ken Loach. Mais non, moi, je vois pas ce qu'il y a de particulier. Il peut être, avant d'être un cinéaste, c'est un homme, quoi. Donc, et c'est l'homme qui est engagé. Donc voilà, après, pourquoi ne pas avoir creusé plus ça? C'est parce que c'est un festival de cinéma, Premier Plan. Il est président du festival Premier Plan. Il a une histoire longue avec ce festival. Il vient d'abord là pour voir des films. Et on avait envie de connaître aussi le cinéaste qu'il est et le réalisateur qu'il est. Donc l'angle principal, c'est quand même celui-ci. Finalement, l'engagement du citoyen, c'est un plus qu'on apporte, mais l'angle principal, c'est quand même le cinéma.
Alors justement, l'angle principal, c'est le cinéma. On le sent bien dans l'article. Pourtant, cette dernière question, pour tout vous avouer, Sébastien, m'a laissé un peu sur la fin, sur ma fin en tout cas. Pourquoi finir avec cette question sur les attentats de Paris, à laquelle Arnaud Desplechin répond très très rapidement, sans vraiment nous livrer quelque chose?
Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé dans l'entretien. Après, l'entretien s'est fait un moment, sans doute à la mi-décembre peut-être, ouais, à peu près comme ça. Donc on était toujours dans cette... on en avait parlé, je crois, la dernière fois, dans cette... voilà, dans la suite des attentats de Paris, on ne peut pas non plus échapper à ce style de questions. Après, encore une fois, c'est le cinéma qui est l'angle principal. Je ne sais pas s'il lui a dit plus de choses là-dessus. Voilà, il chute là-dessus, lui a semblé évident, nous, ça ne nous a pas choqué, ça nous a même semblé assez évident finalement, parce qu'il va en être question durant le festival de ces attentats d'une manière directe ou non. Je crois qu'il y a une programmation notamment sur les migrants qui a été introduite au dernier moment, entre guillemets. Donc voilà, ça nous semblait faire partie aussi du sujet. Même si on est frustré de ne pas pouvoir aller encore une fois plus loin. Mais c'est comme ça.
Et ben nous aussi, on est frustrés. On aurait bien aimé en discuter un peu plus. Mais le temps passe. On va passer à l'interview que vous avez réalisée d'Olivier Beuvelet, qui est docteur en esthétique de l'art à Paris 3. Vous l'avez interviewé à propos de la rébellion au cinéma. C'est l'une des trois rétros proposées cette année au festival. Pourquoi avoir choisi Olivier Beuvelet en particulier pour aborder ce sujet-là?
Pourquoi ne pas l'avoir choisi? Non, c'est parce qu'il
oui, on
avait
posé la question aussi.
non, il avait une actualité. Il avait une actualité qui est la sortie d'un livre qui s'appelle Insurrection culturelle avec Jonathan Nociter, le réalisateur, qui est venu plusieurs fois à Angers d'ailleurs. Donc une histoire lui aussi avec Angers. Et puis moi je voulais le regarder un universitaire de ce point de vue-là. Je trouvais qu'il pouvait nous aider à élargir un petit peu la focale. Ne pas rester sur la figure du rebelle en tant que tel, mais essayer d'élargir le propos au cinéma. C'est-à-dire, est-ce que le cinéma est un art rebelle en soi? C'était ça le propos, et je trouvais que dans les différents articles que j'ai pu lire de lui, il avait notamment chroniqué le dernier Grand Prix du festival. Je trouvais qu'il pouvait nous éclairer sur ce point de vue-là. Voilà.
Le fait qu'il ait un blog sur Mediapart, ça aide aussi à mieux cerner un peu le personnage et se dire, il va être plutôt bien, en tout cas bon client, pour parler dans le jargon journalistique, ou rien à voir?
Non, alors pour tout vous dire, le fait qu'il ait un blog sur Mediapart, ça m'a surtout aidé à le contacter. Pardon. Après, c'est plus facile de lire ce qu'il fait et d'adhérer ou non, ou de se dire, c'est le type qu'il nous faut, quoi. Ça, c'est clair.
Thibaut ?
C'est justement le choix de cet intervenant qui vous a fait choisir cette thématique, parce que vous auriez pu aussi écrire sur une des autres rétro proposées. Il y avait les migrants d'aujourd'hui que vous avez cités, on avait aussi l'Islande. Pourquoi le choix de la rébellion en particulier?
Parce que au-delà de la... Alors le choix, c'est fait assez vite, pas forcément sur Olivier Beuvelet, mais sur cette thématique-là, parce qu'il y a effectivement une rétro rebelle, avec la figure de rebelle, mais on sent bien que tout le festival et l'affiche en elle-même, Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est un rebelle, donc il fait pas partie de la rétro, ça fait partie de la rétro Milos Forman en l'occurrence, mais on sent bien que c'est un thème qui traverse ce festival cette année, en tout cas c'est comme ça qu'on l'interprète nous, donc ça s'est imposé à nous comme ça.
Comment sur un sujet, on va dire, aussi vaste et aussi intéressant, on arrive à réduire et à avoir cet entretien-là? Non, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous. Comment on arrive à sortir, on va dire, juste l'extrait qu'il faut et à ramener ça sur une page?
Alors c'est d'abord une question mathématique, je ne sais pas si vous avez 15 000 signes et que vous pouvez en rentrer que 8 000, il faut en supprimer la moitié en gros quoi. Donc voilà, après on essaye de garder l'essentiel, on essaie de que le propos soit cohérent, qu'il y ait tout au long du propos, voilà, qu'il y a une idée force qui ressorte. Voilà, après c'est du travail pur de journaliste effectivement, enfin, on réussit ou non, mais c'est ce but là, ouais, qu'il y ait de la cohérence dans le propos et puis qu'on apprenne des choses, c'est toujours la même chose, le même propos que pour des Pléchins.
Thibaut.
Et donc avec ce choix de thématique, pourquoi ne pas avoir insisté un peu plus sur l'aspect politique de la rébellion au cinéma justement?
Parce qu'on n'avait pas forcément la place. Effectivement, il m'en a parlé, l'aspect politique, on s'est dit plus de choses que ce qu'il y a là, mais on a choisi. On parle, je crois, d'ailleurs, de l'aspect politique, il faudrait que je la relise, mais
oui, effectivement, elle doit être évoquée à un moment. Oui, c'est évoqué, c'est pour ça qu'on se posait la question. Ça a été évoqué, et ça a été évoqué sur une question, et un peu de la même manière que sur l'article précédent. On attend plus, évidemment, c'est à chacun de se faire son opinion, mais on attendait un tout petit peu plus et on s'est dit, pourquoi il n'y avait pas une question.
Quand on la reprendra sur le web, je regarderai ce qu'il m'a dit, puis j'essaierai de compléter ce propos-là.
C'est gentil.
En tout cas, ce n'est pas une censure, une autocensure vis-à-vis du propos en tant que tel, absolument pas, non.
Non, mais on se disait que c'était peut-être lui aussi qui n'en avait pas forcément parlé, ou que à la base vous c'était pas spécialement ce qui vous intéressait, mais il en a parlé, donc.
Si c'est arrivé dans la discussion, ça remonte déjà cet entretien, mais assez naturellement finalement, on en a parlé très librement parce qu'en plus c'est aussi le propos de son livre, l'insurrection culturelle. Donc voilà, mais on a fait d'autres choix et il y a d'autres sujets à traiter.
Très bien. Le sous-marin revient juste après ça. Wise man allow to burn your finger. Wise man show how to take a bow. Wise man allow to sit and linger. Wise man show how to disallow. Make a bow, bend down low. Mind the gap, cause it's suffer down below. Heel that toe, cook the dough. Taking time, watch the flower grow. I see the cola now and allow you to ring. Yeah, ring on. I see the cola now and allow you to ring. Ring, yeah. I see the cola now and allow you to ring. I see that cola now and allow you to ring. Yeah. Eyes can reveal if undercover. Lies can show how to disavow. Disguise won't allow to show your inner. Advise not despise a thick apple. Take it slow, time to show. Those you love, time has come for you to glow. Even though not long ago, had to pick you up for you to blow. I see that cola now and allow you to rip. Yeah, rip on. I see that cola now and allow you to rip. Rip on. I see that cola now and allow you to rip. Rip, rip, rip. I see that cola now and allow you to rip. Rip, rip. Doesn't mean you can leave the litter. Doesn't mean you can do it later. Look around, touch the ground, feel the vibe and do please remember. You and them I got lots to measure. This world ain't got no center. Fool around, play the clown. Giving color will get your pleasure. Pleasure, 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 pleasure. Lots of pleasure. The color now, yeah. I see that cola now and allow you to ray on. Ray. I see that cola now and allow you to ray. Yeah, I see that cola now and allow you to ray on. I
Cola now and allow you to ray.
Vous êtes toujours dans le sous-marin sur le 103 de Campus. Nous sommes toujours en compagnie de Sébastien Rochard, journaliste à Angers Mag, pour décrypter ce dernier Angers Mag spécial premier plan. On va peut-être passer au dossier, messieurs, si le cœur vous en dit. Alors, la première partie se concentre aux 10 dates clés de l'histoire du cinéma à Angers. On part de 1896, la première projection, jusqu'en 2015 avec la création de Cinéville au Pont-de-Cé. L'article est signé Yves Boiteau. Personnellement, Sébastien Rochard, vous avez appris des choses en lisant cet article de Yves Boiteau?
J'ai quasiment tout appris, ouais. J'ai quasiment tout appris. Et c'est passionnant, d'ailleurs, de voir un petit peu l'histoire de ce cinéma qui répond aussi, je trouve, à l'interview dont on parlait tout à l'heure avec Olivier Beuvelet, le fait que le cinéma, au début, était considéré comme un art mineur, finalement, par rapport aux autres arts. On a une partie de la réponse dans l'historique, quoi. Et puis, on voit un petit peu le terreau en tout cas sur lequel s'est bâti premier plan, et j'ai appris plein de trucs, ouais.
C'est vrai que personnellement, moi, je m'y attendais pas à ce que en 61 il y ait déjà eu 15 cinémas à Angers. C'est assez impressionnant. On se posait une question ici: est-ce que 2015, l'ouverture du Cinéville, c'est vraiment une part de l'histoire du cinéma à Angers, ou est-ce que c'est pas si important que ça, c'est un détail?
Ça, c'est plus l'histoire qui nous le dira. Après, c'était important que les élus, en tout cas, ont considéré que c'était important que sur le versant sud du territoire, il y ait un cinéma. Vous répondre, savoir si c'était si important que ça dans l'histoire du cinéma, je peux pas vous le dire aujourd'hui, mais il existe, et c'est le dernier en date, et l'ouverture d'un cinéma, c'est pas si fréquent que ça. Donc oui, de ce point de vue-là, on a plutôt assisté ces dernières années à des fermetures de cinéma qu'à des ouvertures. Donc de ce point de vue-là, c'est déjà, oui...
Parce qu'on rappelle que sur l'agglomération, il n'y a plus que 3 cinémas.
C'est ça, ouais.
Quand même. Thibaut.
Et justement, donc, dans ce dossier, vous partez du postulat qu'Angers est une ville de cinéma. Alors c'est sûr que quand on approche de premier plan avec toute l'effervescence qui est autour, on a envie de dire que c'en est une. Mais comme le dit Pierre-Louis, une ville de cette taille, 3 cinémas, c'est au final pas tant que ça. Surtout quand on prend en compte les prix qui sont pratiqués par les salles, qu'on peut trouver un peu prohibitifs, surtout quand on est jeune.
Oui, c'est vrai. Après, il n'y a pas de spécificité angevine à la fermeture de tous ces cinémas. C'est général. C'est dû à la génération télévision, téléchargement illégal, à des prix prohibitifs, effectivement, qui peuvent être considérés comme tels. Après, si on dit que c'est une ville de cinéma, c'est aussi parce que le cinéma d'art et d'essai, qui est les 400 coups, ils font le plein, quoi. Je veux dire, il y a des files d'attente très très régulièrement, ça fonctionne à fond. Donc, ça veut dire que tu as un public qui est éduqué au cinéma et qui est habitué à y venir.
Justement, c'est peut-être aussi dans ce sens-là qu'on peut se rendre compte que Angers, d'une certaine manière, est une ville de cinéma. C'est malgré les prix qui sont largement plus élevés que dans d'autres villes de la même taille, les gens continuent à y aller et continuent à aller notamment aux 400 coups.
Oui, alors les 400 coups, c'est des prix qui ne sont pas prohibitifs. Hein. Enfin, si on prend un abonnement, ça reste raisonnable. Alors, ça reste raisonnable pour des places de cinéma. Moi, j'ai pas fait de comparatif avec les autres villes, mais je suis pas sûr que le 400 coups soit beaucoup plus cher que les cinémas d'arts et d'essai dans d'autres villes.
D'expérience,
je demande à voir.
Il est quand même pas mal au-dessus. Hein. On va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, 8€ sans abonnement, sans rien, sec pour un cinéma d'arts et d'essai. Il y en a pas non plus énormément qui pratiquent des tarifs aussi hauts. En général, on est plutôt aux alentours de 6€. Voilà pour la précision. Bon. Thibaut.
Dans l'article de Tiphaine Crézet intitulé « Gaumont et 400 coups », Emmanuel Guibaud, chargé du jeune public, dit « Aujourd'hui, la crainte est que, justement, de perdre le public jeune de par la multiplication des écrans, de par le téléchargement, comme vous dites. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait d'autres raisons à ce désistement de la part des jeunes? Est-ce que ce n'est pas un peu simple de résumer ça au fait que c'est la génération digitale native ?»
Vous pensez à quoi exactement? C'est que pour être quoi ces autres raisons?
Bah, on revient un peu autour de la question à la fois du prix et peut-être de la culture aussi, le fait qu'on va pas forcément se tourner vers le cinéma d'art et d'essai.
C'est possible. Après, c'est des pistes qui sont lancées par Emmanuel Gibault. Hein. Je suis pas sûr qu'elle ait de réponse toute faite à ces questions-là. Et c'est pas un facteur seul. Je veux dire, il y a le prix, il y a le fait que voilà, on regarde plus la télé, il y a le téléchargement, tout ça cumulé, effectivement, on peut créer un danger. C'est pas un facteur plus. Alors, certainement des facteurs plus que d'autres, mais c'est tout un ensemble de facteurs qui conduisent à cette situation-là et au fait bah, qu'ils y prennent garde quoi, et qu'ils font plein d'actions pour lutter contre ça.
Vous avez ensuite choisi de mettre deux locales, on va dire ça, à l'honneur. Donc, Belinda Le Duc. Oui, c'est bien prononcé.
Belinda Le Duc, ouais,
oui,
c'est ça.
Oui, bon,
c'est
voilà, ça. Hein, je préfère éviter à la radio, c'est mieux. Et Elena Cotinier, c'est important de parler des locales, on va dire ça comme ça, qui font le cinéma. Ça vous paraissait essentiel même?
Ah bah, dans le dossier, c'était essentiel, puisqu'on voulait parler d'Angers et du cinéma. Donc, il nous semblait intéressant, effectivement, de montrer, alors de faire découvrir des métiers aussi. Parce que voilà, producteur de cinéma, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Réalisateur, assistant réalisateur, qu'est-ce que ça veut dire? Éditeur vidéo, Margot Grenier, éditrice vidéo, bon, moi je ne savais pas à quoi ça correspondait exactement. Donc on présente des métiers et puis on présente des talents locaux, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans le cinéma justement, qui sont originaires d'Angers. Et ce qui est intéressant dans ces deux portraits, que ce soit Elena Cotinier ou Belinda Le Duc, c'est qu'elles sont arrivées au cinéma, ou en tout cas elles ont une histoire commune aussi avec Premier Plan. Ça veut dire que Premier Plan, bah, peut créer des vocations et voilà, c'est aussi un terreau fertile pour travailler dans cette profession-là.
C'est pour ça que vous les avez choisis, cette relation avec la ville, avec Premier Plan?
On a déjà choisi pour tout ça, parce qu'elles faisaient ce métier-là, parce qu'elles étaient angevines et parce qu'elles avaient une relation avec Premier Plan. Ça fait beaucoup de bons points et d'arguments pour faire des portraits, non?
Effectivement. Non, moi je me demandais si vous aviez eu tant que ça de choix à faire, si finalement il y a énormément d'angevins, d'angevines qui font du cinéma, qui sont passés par Premier Plan, ou est-ce qu'il y en avait 3-4 et que vous êtes tombé sur deux de ces 3-4 personnes?
Il se trouve qu'on a entendu parler, alors qu'on, soit on connaissait, soit on a entendu parler, soit on a recherché un peu et on est tombé sur ces deux portraits, plus celui de Margot qui est un petit peu différent puisqu'elle vient d'arriver sur Angers. Après, je suis incapable de vous dire s'il y a beaucoup d'angevins qui travaillent dans le cinéma. Ça, c'est la question piège. Il n'y en a pas plus ni moins qu'ailleurs, je pense. Voilà. Mais ces deux-là, elles sont assez représentatives, à mon avis.
Alors, avant de parler sport avec Alexis, un des titres du dossier, sans bon le foot hein, quand même, intitulé « Muscler son regard au festival ». L'accent est mis sur la formation, c'est un des axes importants pour Premier Plan, pour le festival, pour le cinéma angevin de manière générale.
C'est fondamental, si vous parlez avec les fondateurs de Premier Plan, avec ceux qui le portent depuis le début, c'est, voilà, ça allait de pair avec, la création du festival. Et puis c'est ce qui fait la spécificité d'Angers et le fait que, alors là, ça fait 3 ans qu'on fait le supplément Premier Plan, qu'on fait ce numéro spécial, et pour avoir parlé avec pas mal de jeunes réalisateurs quand même depuis 3 ans, c'est ce qui fait aussi la force du festival et le fait que les réalisateurs aiment venir ici présenter leurs films. On en a l'illustration avec Laszlo Nemes, qui n'a pas oublié qu'il avait été révélé, c'est celui qui a réalisé Le Fils de Saul, qu'il n'avait pas été révélé, mais soutenu dès 2006 par Premier Plan. Et que, ben voilà, Belinda Le Duc le dit aussi, on discute avec des gens qui aiment le cinéma. On sent qu'à la sortie des salles, c'est pas, bah oui, j'ai trouvé ça mauvais, j'ai trouvé ça... Non, c'est argumenté tout ça. Donc, ils adorent venir ici pour ces raisons-là et parce que, voilà, les gens sont éduqués au cinéma. Et c'est important, ils le disent d'ailleurs dans le dossier, c'est important d'être éduqué au cinéma aujourd'hui et à l'image parce qu'il y a profusion d'écrans. Donc, il faut savoir faire le tri.
Il me semble qu'Arnaud Desplechin le dit aussi, qu'il vient à Angers, lui, carrément pour s'inspirer, trouver l'inspiration, trouver des idées pour l'écriture. C'est aussi ça la force des jeunes au cinéma?
Oui, bah c'est la force des jeunes au cinéma et c'est la force de Premier Plan. C'est-à-dire qu'à Premier Plan se révèlent les cinéastes de demain, alors qu'ils commencent déjà à réaliser, mais voilà, qui parlent de leur génération, qui parlent des aspirations, des thématiques actuelles. Donc effectivement, je ne suis pas étonné qu'un réalisateur bah, qui est curieux de tout ça, de nouvelles idées, ils s'y nourrissent aussi en étant président.
Thibaut? Non, pas Thibaut. Ok, j'y vais. Non, je vois que les références...
Il veut pas me poser de questions.
Non, voilà, foot, c'est ton domaine, moi. Je t'aime pas ça. Chacun son... Ouais.
Non, mais avec le titre de cet article, le clin d'œil à Aimé Jacquet et Robert Pires, puisque c'était le fameux Muscle ton jeu Robert, c'est une autre manière de dire que le festival est ouvert aux jeunes, dans le sens pas seulement aux jeunes réalisateurs, mais aussi aux jeunes, et qu'il faut finalement travailler pour arriver à comprendre, à maîtriser le langage cinématographique.
Juste sur le rapport au titre ?
Ouais, moi c'est comme ça que je l'ai compris, un rapport au titre.
Alors, il faut poser la question à Tiffaine, mais Tiffaine Crézet qui a fait l'article, je suis pas sûr qu'elle sache de qui vous parlez quand vous parlez de Robert Pires et de Muscler ton jeu.
Quand même, c'est méchant pour elle.
Il faudra lui demander.
On lui demandera.
Il faudra lui demander, ouais. Mais il faut. C'est fondamental effectivement d'éduquer le regard dès le plus jeune âge. Quand on parle avec ceux qui sont chargés des publics là, à premier plan, ils vous disent très clairement qu'au début, c'est pas forcément si simple que ça, quoi. Il n'y a pas forcément une très grande envie des collégiens, par exemple, de partir sur un cycle long, sur le cinéma. Et puis, ils se prennent au jeu. C'est toujours là. Il faut trouver le bon angle pour les y intéresser. Et je pense que la journée particulière qui concerne les collégiens, où là, il y a d'autres événements, notamment de blogs, tout ça, qui vont être créés, peuvent intéresser les gens et amuser les gens et les éduquer à un nouveau regard à l'image, ouais.
Thibaut, l'éducation, ça te parle plus,
oui,
pas ?
Oui, ça, c'est cool. Alors, Angémac va diffuser sur son site web, justement, les articles du blog dont vous parliez. Donc, c'est festival-angers-critique.blogspot.fr. C'est important pour vous d'être partenaire et de contribuer, d'une certaine manière, à faire du journalisme citoyen ?
Mais évidemment. Enfin, c'est inhérent, à la limite, à l'existence d'Angémac. Donc, ça correspond à ce qu'on veut faire depuis le début, en dehors du cinéma, d'une manière générale. Si on peut être participatif et éduquer le regard, éduquer autre chose ou apporter quelque chose, on va le faire. Et puis ça peut être la révélation de talent aussi, critique, tout simplement. Donc, on le fait déjà, d'ailleurs. On publie depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant, les chroniques du lycée Renoir. C'est le prolongement d'une action... qu'on mène depuis longtemps, et il faut des supports pour diffuser ces critiques-là, donc on est content de le faire. Ouais.
C'est un partenariat qui s'est fait naturellement avec Premier Plan, où vous en avez discuté, ils sont venus vous chercher
Au tout début de l'histoire
de l'histoire du relais du blog.
Ah, du relais du blog, ouais. Non, ça s'est fait très naturellement. On l'avait déjà évoqué l'année dernière, alors c'était pas tout à fait la même chose qui s'était fait l'année dernière sur le blog, donc on en avait déjà discuté l'année dernière, et puis ça s'était pas fait, manque de temps, manque d'organisation, tout ce qu'on veut. Mais cette année, oui, évidemment, avec cette thématique-là en plus, ça semblait naturel qu'on puisse relayer ce blog. Ouais.
Vous pensez éventuellement publier les meilleurs en version papier, ou ça va rester uniquement sur le site internet ?
Non, ça restera sur internet.
Ouais. Effectivement, on peut comprendre. Vous avez avec ça une action d'accompagnement, vous éventuellement corriger, retaper, ou vous faites confiance aux deux encadrants de cette action vous...
Bah, après, on verra comment ça se passe en direct, évidemment. Enfin, si c'est bourré de fautes d'orthographe, on ne laissera pas passer ça, évidemment. Mais ce ne sera pas le cas, puisqu'on fait effectivement confiance aux deux encadrants pour accompagner les différents textes et ceux qui les produisent.
Alors, les deux encadrants, on va peut-être citer leur nom quand même, ça peut être sympa pour eux. C'est Morgane Poquet et Gwen Froger, voilà, qui permettront. C'est ouvert aux 15-30 ans, il me semble.
Vous me posez une colle, il faut relire ça, mais je crois que c'est ça.
Oui, ouais. C'est ça. Je l'ai sous les yeux. Voilà.
C'est en relais de ce qui. Ça existe déjà lors des ateliers d'Angers l'été, hein, qui s'organisaient l'été. Il y avait déjà des premiers ponts qui avaient été jetés, donc c'est la prolongation de cette action-là.
J'en profite d'ailleurs pour dire que sur ce blog-là, vous pourrez retrouver des critiques radio et également des portraits radio, puisque nous-mêmes, à Radio Campus, nous sommes partenaires avec Premier Plan et avec le blog. Un dernier mot, quelqu'un autour de la table sur le cinéma. Je vois ton regard perdu, Alexis. Non, le sport, c'est ton truc, le cinéma.
Non, juste Robert Pires, moi, qui va parler pendant le...
Ah voilà, forcément, c'est sûr, dès qu'on parle d'Aimé Jacquet, Robert Pires, là, le sportif se réveille. Bon, on va faire quand même une pause musicale avant que tu nous parles de sport, Alexis.
« Depuis mon plus jeune âge, je rêve de gloire, de cash flow. Dois-je passer ma vie en marche d'un système qui me dévisage? Mon panache comme bagage sûr, j'assure mon avenir. Mon futur, je le vois prospère, pas duplex, busy compte en caisse remplie, grosse sacoche. Borsalino, BM, Porsche, nombreux rêves de mioche m'ont poussé à remplir mes poches. Avenue Foch, gloire, pouvoir sortir de la rue, croire, vouloir se battre pour avoir ce qui t'est du nez, jamais grosse perdue. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. Sors de ton cul de sac du cycle infernal, du gène que le béton détraque. De l'ignorance, la délinquance, la violence, ta soie des ans de malchance que toi-même sème par négligence. Échec, scolaire, vice, mauvaise compagnie qui te trahissent. Fils démoli pour reconstruire ceux que tu négliges et jadis. Je crois en moi, en toi, le futur est entre nos mains et rien ne doit pouvoir barrer nos chemins. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Je le dédie pour ceux que j'aime dans tout ce béton. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Pense qu'aujourd'hui c'est ton jour pour lutter et vaincre, garçon. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. Ceci va pour tous les jeunes de cité, lascar et filles oubliées, banlieue condamnée, ville écartée, damnée, déshéritée, exclus de la chance, fils d'immigrés déçus, tous ceux qui ont dans leurs yeux quelque chose d'horizon, perdu, fils et chahut, grandissant sous le souffle de l'obus, ceux qui ont disparu sans jamais avoir connu la joie, ma génération s'élève du béton comme un drapeau. América Latina, Africa, represento Colombia, le tiers du monde, l'allégresse, d'outre tombe la tristesse, d'un jeune en détresse, pleurant derrière des barreaux, sa jeunesse donne l'exemple, montre aussi que tu peux t'en sortir, l'espérance est vitale comme l'oxygène. L'oxygène que l'on respire, c'est le pire des combats. La perpétuelle querelle, la saga, c'est le dominant sur le dominé. La loi du plus fric qui renverse les statistiques, sondages. Prouve à ton entourage qu'un homme plein de courage peut creuser son propre passage vers la victoire. La réussite malgré les multiples conflits raciaux, sociaux en France où t'es fort à une récompense. Go, one love pour tous les jeunes en bas des escaliers de cité HLM. Je sème de l'espoir pour tous ceux que j'aime. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Dédicacé à ceux que j'aime dans tout ce béton. Dans tout ce béton. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Pense qu'aujourd'hui c'est ton jour pour lutter et vaincre, Chico. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. 9-7, siempre echando pa'lante. Con fe, hermano. Siembra y recolta. Yes, depuis mon plus jeune âge, je rêve d'explorer le monde, la terre c'est mystère. Imagine des voyages en première classe, en frontière, sans passeport, en concorde, cocktail à la main. Observons l'univers du haut du ciel, volant de plus en plus loin. Choisir son destin, être maître de soi-même. Vivre pour ce que l'on aime, malgré les contraintes du système. S'entraider, parler de fraternité, de confiance, oublier ses problèmes, ne serait-ce qu'un instant, voir des mains se serrer. Mater la télé, voir moins de misère, de barrières sociales, chômage, exclusion raciale, de police, front national. Entendre les rires des enfants percés, le cœur en béton pressé, de bâtir un monde parfait basé sur le respect. Mais le monde tourne comme une roulette et rien ne changera. Quand le tout-puissant fera ses comptes, lui seul jugera. Filles et garçons, avançons d'une case nos pions. Unis nous sommes la lumière du chemin où nous allons. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Je le dédie pour ceux que j'aime dans tout ce béton. Dans tout ce béton. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Pense qu'aujourd'hui c'est ton jour pour lutter et vaincre, garçon. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque.
Bien voilà, après avoir évoqué à demi-mot France 98 avec Robert Pires et Aimé Jacquet, on vous passe un titre de 97. L'artiste c'est Roca, le titre c'est Les Jeunes de l'Univers. Et tout de suite, eh bien, on va parler de sport avec Alexis. Ouais, avec une virgule et puis
20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
On parlait justement des réals qui avaient du mal à rester concentrés durant une émission.
Oh là là, c'est méchant, ça chambre beaucoup de ton côté Thibaut, là. Attention, tu files un mauvais coton depuis la rentrée. Bon, si on parlait un peu de sport, hein, je sais que ça vous intéresse Sébastien, puisqu'on va parler de foot, et que le foot vous intéresse, on en avait discuté avec Yves Boiteau à l'occasion de l'interview de Stéphane Moulin, il me semble. Exact. Bref, Alexis, tu nous emmènes en Espagne.
Eh oui. On nous bassine avec ça depuis le début de la semaine. Je parle bien sûr, messieurs, de la nomination de Zinedine Zidane à la tête du Real de Madrid. Pour notre Zizou national, c'est...
Eh oui, c'est la reprise.
Eh oui, C'est la reprise. Il est donc propulsé à la tête des Meringues suite au limogeage de son prédécesseur, donc Rafael Benitez, qui a été vivement critiqué suite à des résultats décevants, notamment le revers face à Barcelone 4-0, on s'en rappelle, je sais pas si vous avez regardé le match.
Non, pas du tout, mais j'ai vu le résultat, effectivement, ça fait quand même assez mal. Vous aviez regardé, Sébastien ?
J'avais regardé, oui.
Une belle claque. Et donc, il a été critiqué aussi sur sa gestion du groupe, hein. il y avait des problèmes internes pendant son ère. Donc. Et donc, Zidane, lui, il l'a annoncé, il se veut proche des joueurs. Il les a d'ailleurs réunis dans le vestiaire avant le premier entraînement pour leur adresser un message. On l'écoute.
J'aime ces moments-là. On est là, tous ensemble. Des ballons sur le sol, des regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours, chaussettes, chaussures. Puis la jambe droite, et puis une gorgée de Volvic, toujours.
Alors améliorer la gestion du groupe, moi je veux bien. Je suis preneur, mais pour cela il faudrait d'abord arrêter de mentir Zinedine. Eh ouais, quand on lui demande s'il a un bon jeu de tête, regardez ce qu'il nous répond.
Est-ce que tu as un bon jeu de tête ?
Pas du tout.
Non, mais c'est le jeu de tête, en fait, c'est vrai que ça a toujours été mon inconvénient, quelque part. Toujours été mon problème, un peu.
Alors, on s'en souvient de cette finale en 2006, donc le jeu de tête, moi, je pense qu'il l'a. Surtout qu'il ne le cache pas, le coup de boule.
C'est un geste qui me plaît beaucoup et que j'aime faire, quoi.
Alors, améliorer la gestion du groupe, certes, mais notre Zizou cherchera aussi à améliorer le style de jeu. Et pour cela, il a été clair, il gardera son trio d'attaque, son attaque de feu, la BBC, et ouais, c'est qui la BBC, Pierre-Louis ?
Ah, quand même, tu me poses la question à moi. Moi, j'aime bien le foot, je vais savoir te répondre. Piège Thibaut, un peu, qui n'y connaît que dalle.
Thibaut, la BBC.
Eh bien, Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo.
C'est bien, t'as lu sur mes feuilles, c'est bien. Autre point préoccupant, la situation de certains joueurs. Et ouais, Isco, le jeune Isco sur le banc. James Rodriguez, relégué lui aussi sur le banc. Il va devoir s'occuper de ces gars-là. Mais le point noir, c'est Cristiano Ronaldo. Alors, PSG ou pas PSG, en tout cas, Zidane a mis les points sur les i avec Laurent Blanc.
Pardon, excusez-moi.
Oui, Zizou.
Moi aussi, j'emmerde Laurent Blanc.
Ah non, pas vous.
Si, si.
Alors après ces petits problèmes internes, il faudra penser à ramener des résultats. Et oui, le Real, avec son effectif pléthorique, pointe à la 3e place du classement. Alors vous me direz, c'est bien, surtout quand on voit qu'ils sont derrière l'Atlético Madrid, 41 points, premier donc, et Barcelone, second, avec 39 points. Mais voilà, le jeu n'y est pas. J'en suis même allé à supporter le PSG face à eux lors de leur confrontation en Ligue des Champions, et Dieu sait que c'était dur pour moi. En conclusion, Zidane à la tête du Real, pourquoi pas, mais il va falloir qu'il montre rapidement l'efficacité qu'on lui a prêtée à la Castilla. Et finalement, on aurait préféré qu'il revienne sur le terrain. Alors Zizou, bon courage et bonne année 2016.
Merci beaucoup Alexis. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir eu Zidane en interview, ça t'a fait quoi ?
Bah, j'étais tout excité. Après, j'étais plus connu que lui sur le moment.
Ouais, c'est vrai que ça doit être emmerdant quand même. La star internationale de Radio Campus Angers. C'était Alexis. Sébastien Rochard, ça vous fait réagir, Zizou, entraîneur du Real Madrid?
Non, ce qui me fait réagir, c'est la malhonnêteté intellectuelle de votre chroniqueur. Quand on parle du jeu de tête de Zinedine Zidane, on pense d'abord aux deux buts en finale de Coupe du Monde.
C'est vrai. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il précisait dans l'extrait que j'ai coupé, juste après.
Rétablissons la vérité.
Ouais, exactement.
Non, sinon ça vous fait rêver, ça non vous.
Non, ça a arrêté de me faire rêver. Je m'intéresse beaucoup au foot, mais j'ai fini de rêver. Par contre, je suis trop grand pour ça. Enfin, en tout cas, les footballeurs me font plus rêver, non. Mais oui, je m'y intéresse, mais de manière tout à fait personnelle et voilà. Donc, mais voilà, c'est on parle de choses et de sommes qu'on peut à peine toucher finalement. Donc c'est voilà.
C'est vrai relatif. Là-dessus, c'est assez impressionnant. Une dernière question, Zidane, vous le voyez bon entraîneur, peut-être futur sélectionneur de l'équipe de France un jour ou pas tant que ça.
Aussi, je pense qu'il sera sélectionneur de l'équipe de France. Après, va falloir qu'il fasse ses preuves au Real Madrid. C'est bizarre de dire ça d'ailleurs, faire ses preuves au Real Madrid finalement. Mais oui, il n'y a pas de raison qu'il soit un mauvais entraîneur et je pense qu'il a déjà le respect, de par son aura, le respect des joueurs, ce qui n'est pas si facile que ça à gagner a priori dans le vestiaire du Real. On verra.
Alexis, toi, t'y crois ?
Ouais, surtout qu'il était bien, il était apprécié quand il était adjoint d'Ancelotti, donc qui était l'entraîneur avant Benitez, et les joueurs avaient plutôt l'air de l'apprécier. Il a fait du bon travail à la Castilla et avec les jeunes aussi du Real de Madrid, donc pourquoi pas. Puis il faut lui donner sa chance un jour ou l'autre, hein, de toute manière.
Et alors toi, en tant que grand journaliste, Alexis, bref, ça va te faire un grand plaisir d'avoir un mec qui communique aussi bien en conférence de presse, non ?
Ouais, bah alors l'interview pour récolter 45 minutes de parole, il a duré deux jours. Donc, non, il y a un gars qui cause beaucoup, Zidane.
Très sympa. Théo, un dernier mot. Toi, l'expert du foot, Zidane au Real Madrid, ça te fait quoi ?
Ça me parle beaucoup et ça me touche beaucoup, bien entendu.
Bref, dis-le que t'en as rien à foutre. Voilà, c'est la fin de ce sous-marin qui est un peu parti en cacahuète. Merci beaucoup, Alexis, pour cette chronique. Comme d'habitude, quand on fait venir quelqu'un de ta gueule, Coubertin, c'est assez mignon. Merci Isabelle pour cette petite virgule.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.
Voilà, un peu de pub avant de se dire au revoir Sébastien, ça fait pas de mal. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Ce Angers Mag, vous pouvez déjà le trouver dans quelques points de distribution, mais à partir de lundi prochain, vous pourrez le trouver partout.
Ce sera plus facile. Ouais.
C'est bien ça. Et donc, premier plan, on vous rappelle que c'est du 22 au 31 janvier. On y sera, Angers Mag y sera, tout le monde y sera.
Ouais, on se retrouve là-bas.
Bon, très bien. Eh bien, bonne soirée sur les ondes de campus. Moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour le dernier sous-marin de la semaine. Et on remercie évidemment Isabelle qui était à la réalisation, Thibaut pour son magnifique papier historique et Alexis, une fois de plus, pour sa chronique sport. À demain !